Stress dit aussi qu'après le certificat, il faudrait que Louise continue des études à Brive. D'après elle, Louise pourrait aller jusqu'à être institutrice. Ça serait bien, c'est un bon métier. Enfin, on verra ça plus tard, quand Monsieur Lagarde reprendra son poste. Parce que c'est lui le maître en titre. C'est lui qui nous dira ce qui est le mieux quand on pourra enfin tous rentrer chez nous. Les vivants. Que me dit Marthe encore? Oui, c'est à propos de l'autre maîtresse, Mademoiselle Leblanc, une toute jeune qui remplace Monsieur Douzard, ce pauvre vieux de la classe 92. Lui aussi est au casse-pipe, à 42 ans. C'est bien honteux quand même d'envoyer des hommes de cet âge au front. Honteux. À quoi je pensais tout de suite, moi? À la jeune qui le remplace, c'est ça. Eh bien, il paraît qu'elle n'arrive toujours pas à bout d'Albert. Marthe me dit qu'il est toujours à faire les 400 coups et que la petite maîtresse en devient chèvre. En plus, contrairement à Louise, tout ce qu'on lui dit rentre par une oreille et ressort aussitôt par l'autre. Il ne pense qu'à jouer, et il a beaucoup plus de mauvaises notes et de punitions que de bons points. J'étais pareil à son âge, et Marthe était comme Louise, sérieuse, travailleuse. Mais comme elle dit toujours, les chiens ne font pas des chats. Alors oui, c'est elle qui a donné son goût de la classe à Louise et moi celui de l'école buissonnière à Albert. Normal. Mais à ma prochaine perme, il faudra que je lui dise de mieux travailler à ce petit. D'apprendre pour en savoir un jour plus que moi. Il ne peinera pas trop d'ailleurs. Moi, je le vois bien, dans la section, je ne suis pas le plus ignorant, non. Mais il y en a quand même pas mal qui sont beaucoup plus forts que moi. Ils sont instruits, ils comprennent, ils peuvent même tout expliquer. Ils parlent bien aussi. Ils sont savants comme l'était ce pauvre Edmond, notre curé, que son patron a laissé tuer. Moi, comme m'a dit maman quand j'ai raté le certificat, je sais lire, écrire à peu près sans faute et compter plutôt bien. D'accord, je connais aussi mon métier, et déjà beaucoup. Mais par rapport à certains copains, c'est rien. Parce qu'ils sont instituteurs, comme Magne de Périgueux, ou gros commerçants, comme Farge de Cahors. Ou banquiers, comme les Maris, de Cahors aussi. On a même un rentier, comme Delage, de Brive. Et on a aussi Coudert, qui est libraire à Paris. Alors c'est dire. D'ailleurs, quelquefois, quand ils discutent entre eux de leur travail, ou de tout ce qui leur passe par la tête, je ne comprends pas toujours ce qu'ils racontent, ni de quoi ils parlent. Ils ne le font pas exprès. Ce n'est pas pour faire honte aux autres comme moi, et ça ne les rend pas prétentieux du tout. Enfin, quand même, j'en connais bien deux ou trois de ces citadins qui se croient les plus forts et qui nous méprisent, nous, les paysans. Des types comme le petit Riveton ou le gros Duchamp, des ronds de cuir qui se croient les plus forts. Mais ces deux-là, même s'ils étaient encore plus bêtes qu'une pintade, ils se croiraient toujours les plus intelligents du monde. Ce qu'ils oublient, c'est que même s'ils se prennent pour le roi de Prusse, ça ne les empêche pas d'être comme moi en ce moment, avec de la boue jusqu'aux genoux, des poux plein le corps, et cette foutue pluie qui me glace depuis bientôt 2 heures. Et, si ça se trouve, tout malin qu'ils soient, ou qu'ils croient être, ils ont aussi sommé que moi et ne savent pas comment le combattre. Mais pourquoi je pense à ces vilains dédaigneux, moi? Pour ne pas m'endormir, c'est ça. Non, c'est à cause de la lettre de Marthe. Et aussi d'Albert, qui passe son temps à s'amuser au lieu de travailler. Eh bien, à ma prochaine perme, je lui dirai que l'instruction ne peut faire de mal à personne, au contraire, et qu'un jour il sera content d'en avoir. Parce que même s'il est un jour paysan comme moi, et je ne vois pas pourquoi il ne prendrait pas ma relève, ça lui servira quand même d'être un peu instruit. C'est vrai, ça. Moi, avant cette mauvaise guerre, je n'étais presque pas sorti de chez nous, de la Corrèze. Là où j'avais été le plus loin, hors du département, et pendant mon service, et aussi pendant ma période en 7, c'est à la Courtine. Mais la Courtine, surtout en novembre, ça n'apprend pas grand-chose. Sauf que c'est un pays perdu et qu'on s'y gèle. Ouais, il a fallu cette saloperie de mobilisation pour que je monte vers le nord. Avant, je n'aurais jamais cru qu'il y avait des fermes aussi grandes et belles que celles qu'on a vues dans la Marne ou ici. Et quand j'ai eu l'occasion de discuter avec les confrères de ces régions, j'ai bien compris que si presque tous n'étaient pas plus instruits que moi, quelques-uns en connaissaient beaucoup plus question métier. Et c'était leur ferme qui était les plus belles de toutes, les mieux tenues, avec tout un tas de matériel dont je n'avais jamais entendu parler, et des rendements pas croyables. Mesdames, aujourd'hui, qu'elles aient été bien ou mal cultivées par des gars comme moi ou par des plus savants, le résultat est le même. Elles sont toutes foutues, en ruine, pillées. Et qui n'a pas vu des troupeaux entiers avec les pattes en l'air, le ventre comme des ballons et plein de mouches bleues, ne peut pas comprendre ce que ça fait pour un paysan. Quelle honte! Quelle misère! Et toutes ces terres, si riches, parce que ça se voit tout de suite qu'elles sont riches. Il suffit d'y avoir planté la pioche et la pelle pour creuser les tranchées. On voit tout de suite que c'est de la fameuse terre à blé ou à betterave, et sur plusieurs mètres de fond. Qu'est-ce que ça doit être bon d'y ancrer sa charrue, d'y tirer des sillons jusqu'à perte de vue, et d'y semer ensuite le froment à pleine poignée. Ouais, mais c'est pas demain la veille que les gars qui les cultivaient, toutes ces terres, pourront s'y atteler. Ils sont foutus. Et pour longtemps. Pleines de trous d'obus, bourrées de ferrailles, de barbelés, de macabées, et de tous ces kilomètres de tranchées qui les massacrent. Quel gâchis! N'empêche, quand tout sera fini, qu'on pourra se promener dans ces régions sans se faire tirer comme des lapins, j'aimerais revenir voir ce domaine où on a cantonné pendant près de 15 jours, en juin de l'année dernière, juste avant ma perme. C'était à côté d'Amiens, une ferme de plus de 350 hectares. Pas croyable. On ne savait même pas que ça pouvait exister une telle surface pour un seul propriétaire. Le gars qui la possédait était un vrai spécialiste de la terre, une sorte d'ingénieur, un agre. Comment déjà? L'ami Edmond me l'avait dit, hein. Il savait tout, notre curé, sauf baisser la tête à temps. Oui, il m'a donné le nom de cet ingénieur. Oh, j'ai oublié. C'est pas Edmond qui me renseignera maintenant. Il n'était pas fier du tout, cet homme qui essayait de remettre en état tout ce que les autres salauds avaient cassé ou brûlé en août 14, pendant leur percée vers la mer. Il avait du boulot pour tout rattraper, le pauvre gars. Aussi, avec les copains paysans, dont Édouard, on a essayé de lui donner la main. C'est naturel, on n'allait pas rester à rien foutre alors qu'il tentait d'arranger un peu ses bâtiments et ses terres. J'ai eu plaisir à discuter métier avec lui. Et là, sûr qu'il en savait beaucoup plus que moi, et surtout. Mais il n'était pas prétentieux pour autant, et il a tout de suite vu qu'on était de la même partie et qu'on pouvait parler de la terre. Parce que même s'il avait 350 hectares et moi moins de 10, c'est toujours de la terre. Ça rapproche ceux qui la travaillent et ça leur permet de se comprendre. C'est important de se comprendre. Oui, si tout s'arrange un jour, j'aimerais bien le revoir, cet homme, et savoir comment il a pu réparer sa maison et ses étables, et remettre ses champs en état. Voilà ce qu'il faudra que je raconte à Albert pour lui faire comprendre qu'il faut travailler et s'instruire, même si on est paysan. Et à part les enfants, de qui m'a encore parlé Marthe? De maman, c'est ça. Elle a beau m'écrire qu'elle ne va pas plus mal, je pense qu'elle dit ça pour que je ne m'inquiète pas. Pourtant, à mon avis, il y a de quoi. Parce que telle que je la connais, maman, et solide comme elle l'était, si elle ne sort presque plus du lit, c'est que ça va mal. Pauvre femme, la vie n'aura pas été bien gentille avec elle. Quand on pense qu'elle n'avait que 22 ans quand elle s'est retrouvée veuve, c'est pas vieux pour traverser toute seule la vie. Bon. Il faut dire que maintenant, les veuves de cet âge, ou même plus jeunes, ne manquent pas. Ça n'étonne plus personne. N'empêche, si elle ne quitte plus le lit, c'est pas bon signe du tout. Et ça m'emmerde encore plus d'être ici au lieu d'être combette à ses côtés. Bon Dieu, pourvu qu'elle ne nous fasse pas comme la mémé. Elle est beaucoup moins âgée, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'elle aussi en a fait beaucoup dans sa vie. Comme la mémé, d'ailleurs. Je l'aimais bien, la mémé. Elle était calme, résignée peut-être, mais douce et pas méchante pour un sou. Enfin, elle a eu la chance de partir en dormant, c'est déjà bien. Mais quand même, son départ a fait un vide dans la maison et a donné davantage de travail à Marthe. Comme si elle avait besoin de ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit en plus dans sa lettre? Ah oui, qu'elle a profité de l'hiver pour apporter les